Alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver 1 épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. 1 épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 1er et nous continuons, nous suivons cette étude, cet enseignement, cette série « Sans reproche à son retour ». Et nous sommes maintenant rendus à la deuxième message dans ce que nous avons appelé le croyant modèle et sa marche, marcher dans l'espérance. On nous raconte une histoire d'un couple, un vieux couple assez âgé, où est-ce qu'à un moment donné, la dame n'allait pas très bien. Et son mari commençait à s'inquiéter. Elle avait très peu d'appétit, elle dormait pas bien. Comme on dit en bon québécois, ça filait pas. Et face à cette situation, cet homme, il était un peu confus parce que il était quelqu'un qui ne jamais voulait entendre les mauvaises nouvelles. Et dans sa tête, il réfléchissait, mais si je l'amène voir le médecin, puis je reçois un mauvais rapport, qu'est-ce que je vais faire? Et là, il commençait à imaginer toutes sortes de scénarios, peut-être alors un cancer, peut-être ci, peut-être ça. Je ne veux pas entendre une mauvaise nouvelle. Peut-être aussi, à un moment donné, ça va aller mieux. Mais vous savez, la situation a perduré, ça n'a pas changé. Et finalement, il y a un voisin qui a remarqué aussi, justement, que madame n'allait pas bien, puis il a dit à son mari, « Mais écoute, tu devrais, justement, l'amener voir le médecin. » Alors, à force d'insister, finalement, il l'a amené voir le médecin. Alors, le médecin, il fait comme tout bon médecin fait, un bilan complet de sa santé. Et là, il est revenu aussi dans son bureau, puis il a dit justement au mari, « Écoute, vous avez craigné le pire. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre dame, elle va très bien. Elle ne fait pas de cholestérol, elle ne fait pas de diabète. Elle n'a pas de, fait pas de pression, elle n'a pas de cancer, mais il y a une problématique. Elle souffre de l'attentionnite. Il a dit, c'est quoi ça? Ah, c'est un manque justement d'attention. Et le remède est très simple. Elle a besoin justement de plus d'attention de votre part. Plus d'attention, vous devrez dire des petits mots gentils, paroles douces. Vous devrez aussi, ça a besoin justement des câlins et ainsi de suite. Son besoin, et c'est exactement ça, elle a besoin de plus d'attention. Et là, le mari était tout à fait soulagé. « Wow! » Il dit « Merci. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que nous pouvons prendre rendez-vous la semaine prochaine? » Vous savez, il y a des personnes qui sont comme cela dans la santé. Peut-être ici ce matin, il y a quelques-uns, vous n'allez jamais voir le médecin parce que vous ne voulez pas entendre les bonnes nouvelles. Il y a souvent des gens qui disent, « Je veux rien, je ne veux pas savoir. » D'un coup, j'y vais, là, puis il me dit quelque chose. « J'aime rien ne pas savoir. » Il y a d'autres qui disent, « Mais écoute, si j'ai quelque chose, j'aimerais savoir pour qu'on puisse aussi avoir la remède appropriée. » Et vous savez aussi, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre de mauvaises nouvelles, qui sont dans la parole de Dieu, ils veulent simplement, comme ce mari, entendre de bonnes nouvelles. Et le texte qui est devant nous ce matin est un texte extrêmement important parce que dans ce texte-là, nous avons des choses, même si ce sont des mauvaises nouvelles, c'est des choses que les gens devraient savoir. Et en même temps aussi, de l'autre côté, il y a une bonne nouvelle parce que Dieu, dans sa grâce, nous montre quoi faire si nous nous trouvons dans une telle situation. Alors, lisons notre texte pour ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Alors, voici notre texte pour ce matin. Et j'aimerais alors me regarder ensemble et considérer quatre gestes à poser face au jour du Seigneur. Et je veux mettre le texte dans son contexte avant justement d'aller plus loin. Paul est en train d'écrire aux Thessaloniciens et comme vous le savez, ceux qui ont suivi les messages, le retour du Seigneur est mentionné dans chaque chapitre. Et c'est un événement justement glorieux, un événement extraordinaire. Dans le chapitre 4 que nous avons considéré la semaine dernière, il parle de l'enlèvement. Il y avait des gens qui étaient attristés parce que leurs proches, leurs bien-aimés, étaient partis, étaient décédés. Et ils se demandaient maintenant, qu'est-ce qu'il en était? Alors, Paul leur avait écrit justement pour les rassurer qu'un jour Jésus allait revenir. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants restés pour l'avènement du Seigneur allaient être réunis ensemble. Et ça, c'était une nouvelle extraordinaire pour ces personnes. Alors, nous venons maintenant dans le chapitre 5. Et là, Paul il parle d'un autre événement qu'il appelle le jour du Seigneur. Et peut-être dans la tête de ces gens maintenant, ils savaient déjà quelque chose à propos du jour du Seigneur, mais Paul il va leur dire plus de détails. Alors, ce matin, la première chose que nous ne devrions pas faire, c'est de ne pas donner de date en ce qui concerne le jour du Seigneur. Je reviens à notre texte ici, tout d'abord, pour ce qui est des temps et des moments. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, cet événement maintenant, dont il parle, il leur dit une chose, ne fixons pas de date pour cet événement. Pour bien comprendre, c'est quoi exactement le jour du Seigneur dont Paul parle ici? Alors, c'est mentionné 19 fois dans l'Ancien Testament et 4 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est quoi exactement? Mais le texte dans Ésaïe 13 nous dit que c'est un jour de colère et d'ardente fureur. Je n'ai pas le temps ce matin de faire une étude exhaustive sur cela, mais Je vous donne juste des grandes lignes. Sophonie chapitre 1 nous dit que c'est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre en parle justement de ce jour. Il va dire que les cieux passeront avec fracas, les aliments embrasés se dissoudront et la terre sera consumée. Bref, c'est un événement apocalyptique. Pourquoi est-ce qu'il y a un jour du Seigneur? Mais 2 Thessaloniciens chapitre 1 nous dit que Dieu va venir, le Seigneur Jésus-Christ va venir, va descendre des cieux pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça pourrait être, sans pas les gens qui lisent cela, ça peut paraître très drastique, très sévère. On entend souvent « Dieu est bon, Dieu est amour ». Même dans notre langage, on dit « le bon Dieu », c'est de notre génération souvent. Mais là, nous voyons ici qu'il y a un Dieu qui va punir. Et la raison pour cela, parce que Dieu n'est pas seulement bon, mais Dieu est saint. Dieu est trois fois saint. Et Dieu, en ce qui concerne le péché, c'est une chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Tellement il est saint qu'à ses yeux, tellement le péché est laid. Et à un moment donné, use de patience depuis que le monde a été créé, que Adam et Ève ont péché, et finalement, un jour, Dieu va dire, c'est assez. Et en ce moment-là, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui n'obéissent pas à l'Évangile, ça veut dire qu'ils n'ont pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils vont justement rencontrer ce Dieu, pas comme un sauveur, mais comme un juge. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a un jour du Seigneur. Paul va dire dans ce texte, comment ça va venir? Comme un voleur. Vous savez que le voleur, quand il arrive, il ne fait pas d'annonce. Il ne met pas dans les petites annonces dans un journal, « Je m'en viens ce soir là, chez vous, justement pour vous dévaliser. » Il ne dit jamais cela. Comme un voleur, il vient inattendu. On ne s'y attend pas. Dans la nuit, les gens dorment, ils sont inconscients de ce qui se passe autour d'eux. Sauf, par exemple, les mamans. Hein, ils ont cette capacité-là de dormir, comme on dit, un œil ouvert. Souvent, quand ils ont les enfants, les petits bébés, là, le mari il peut être là, puis fouf, il est dans un autre monde. Mais le bébé fait un petit cri tout de suite, la mère. Mais en général, les gens, quand ils dorment, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux. Et aussi, comme ils disent dans le texte, comme les douleurs de l'enfantement, c'est inévitable. Une femme, quand elle porte un bébé, on sait qu'à un moment donné, elle va accoucher. Et à un moment donné, les douleurs vont venir. Alors, il y a deux questions ici. Et je sais que je vous donne des choses assez générales. Le temps qui me reste, c'est dans ce type de message. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les détails de l'eschatologie, les choses de la fin des temps. Si ça vous intrigue, si vous voulez en savoir plus, mais je vous réfère à Michel Pedneau, Jean Lepine et d'autres qui vont donner justement un enseignement approfondi sur justement des choses de la fin. Mais pour ce matin, peut-être vous avez des questions, comme j'ai mis ici. Le jour du Seigneur est-il synonyme de l'enlèvement? Parce qu'il semble que Paul fait une transition. Il parlait de l'enlèvement en chapitre 4. Et tout d'un coup, il s'en va dans le chapitre 5. Il a dit ceci, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Et là, il amène maintenant vers le jour du Seigneur. Alors, est-ce qu'il est en train de faire justement un parallèle? Est-ce que l'enlèvement dont il vient de parler au chapitre 4, c'est la même chose que justement le jour du Seigneur, ce jour qui est terrible, c'est un jour de jugement, un jour de colère de la face de Dieu. Et la deuxième question, la question qui tue, comme on dit, quand auront-ils lieu l'un par rapport à l'autre, s'ils ne sont pas synonymes? Alors, ce matin, on va revenir à ces questions. Vous allez voir à travers le... Et je fais exprès pour ne pas répondre à ces questions. Mais vous allez voir que, et j'espère, à travers la prédication, vous êtes capable vous-même, justement, de répondre à ces questions. Mais avant d'aller dans mon deuxième point, j'aimerais vous poser une question ce matin. Comment est-ce que vous allez, face à ce que nous avons entendu à propos du jour du Seigneur, quelle est votre réaction? Est-ce que pour vous, c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce que ce matin, vous pouvez dire, qu'importe quand ce jour viendra, ça ne m'affectera pas parce que c'est un jour de colère. Mais Jésus-Christ, mon sauveur, a subi la colère de Dieu à ma place à la croix. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui vont nous parler justement de la fin du monde, puis les autres, ils m'ont dit, écoute, ça ne me dérange pas, on va y savoir quand on va y arriver. Mais si vous êtes ici ce matin et vous ne pouvez pas dire qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis vu pécheur, j'ai eu justement ce sentiment que j'étais perdu, je savais que j'avais affaire avec un Dieu qui est trois fois saint, un Dieu qui n'aime pas le péché, et comme la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si je dois faire face au jour du Seigneur, je suis perdu. Et souvent, les gens nous accusent, les évangélistes, justement, de faire peur au monde. Vous prêchez la peur de l'enfer, la peur de ceci. Mais vous savez, la peur, c'est une bonne chose. C'est à cause de la peur que vous n'allez pas mettre votre main sur un rond de calorifère, une cuisinière qui est chaude parce que vous avez peur d'être brûlé. C'est la peur qui va vous retenir quand vous êtes au bord d'un précipice parce que vous avez peur de tomber en bas. C'est la peur qui va justement vous empêcher d'aller jouer dans le trafic parce que vous avez peur d'être frappé. Et c'est la même chose. Une sainte peur d'un Dieu trois fois saint va justement vous donner ce sentiment qu'il faut faire quelque chose. Et comme quelqu'un a dit ce matin, pendant le repas du Seigneur, il y avait cette crainte justement de rencontrer un Dieu qui est juste, sachant qu'il était pécheur. Et je peux vous dire aussi dans mon propre expérience, ce n'est pas à cause de l'amour de Dieu que je suis venu au Seigneur. Mais j'ai grandi dans une famille chrétienne, je connaissais la parole de Dieu, je pouvais vous citer des versets. Même j'ai évangéliser mon épouse avec la parole de Dieu avant même moi-même que j'étais sauvé. Et quand j'ai vu sa réaction et j'ai voyé la joie qu'elle avait dans son cœur et je voyais comment est-ce que sa vie avait changé, moi je cherchais moi-même cette même expérience et face au Seigneur, je ne pouvais pas dire que Jésus-Christ était mon sauveur personnel. Je savais qu'il était mort pour le monde. Le monde, il sait cela. Tout le monde sait cela. Jésus est mort sur la croix. Mais je ne pouvais pas dire que Jésus était mort personnellement pour moi. Et je peux vous dire que sachant ce qui allait venir, sachant que le Seigneur allait revenir, sachant que ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ passeront l'éternité dans le lac du feu, j'étais saisi de la peur. Mais c'est une bonne peur. Pourquoi? Parce que ça m'a poussé d'aller vers la croix. Et de crier au Seigneur, « Sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et c'était urgent, justement, parce que je savais que Christ pouvait revenir n'importe quel instant. Et grâce à cela, le Seigneur, dans sa grâce, il a répondu à cette prière. Et il répondra aussi toujours à cette prière. Et si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas Christ, c'est votre prière. Sinon, vous allez être face à Dieu le jour du Seigneur, un jour de colère. Deuxième chose en ce qui concerne le jour du Seigneur, ça c'est la mauvaise nouvelle, comme je vous ai dit. Mais pour nous qui nous sommes sauvés, il y a une bonne nouvelle. On ne sait pas quand ce jour viendra, on sait qu'il va venir, mais Paul va dire aussi aux chrétiens, « Mais vous, frères, il vient donner un avertissement à ceux qui ne connaissaient pas Dieu, mais là il dit maintenant, « Vous, frères, vous les croyants, les frères en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous connaissez Christ comme votre sauveur personnel. Regardez la différence. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Quelle bonne nouvelle! Vous savez, notre position, nous ne devrions jamais douter face au jour du Seigneur. On ne peut pas mettre une date, mais nous ne devrions pas non plus être envahi par le doute. Colossiens 1, 12, 13 nous dit ceci, « Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, croix de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et si vous êtes ici ce matin, vous connaissez Christ comme votre sauveur personnel, vous n'êtes pas dans le royaume des ténèbres. Vous êtes dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière, parce que par la puissance de Christ à la croix, quand vous avez dit « Seigneur, oui, j'y crois, tu es mort à ma place, par amour. Je suis pécheur, oui, mais tu m'aimes et tu es mort à ma place, je crois. » Il a fait un miracle. Arraché justement du royaume de Satan, des ténèbres, il vous a transporté dans son royaume de lumière, de l'amour de son Fils. Alors, le croyant n'a aucune part au jour du Seigneur, ne doutant pas. Mais vous savez, il y a une problématique. Et Paul y adresse maintenant cela dans ce qu'il va dire. OK? J'ai mon salut. Je suis sauvé. Je n'aurai pas à faire face au jour du Seigneur, ce jour terrible de colère, mais il y a une problématique. Et vous le savez tous. Hein? Le jour qu'on vient au Seigneur, on n'a pas poussé les ailes, on n'est pas devenu justement des gens super spirituels qui ne pêchent plus jamais. Même si nous sommes enfants de la lumière, malheureusement, à cause de la faiblesse de la chair, Romains chapitre 7 en parle, nous pouvons nous comporter comme si nous appartenions toujours au royaume des ténèbres. Et c'est ce que Paul maintenant, dans ce texte maintenant, va faire. Il va montrer à ces gens, vous avez une position enfant de lumière qui est diamétralement opposée à l'autre position enfant de ténèbres. Et là maintenant, il va parler de notre marche maintenant. Il va démontrer comment est-ce que ceux qui sont dans les ténèbres marchent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils dorment. Mais vous êtes des enfants quoi? De la lumière. Vous êtes des enfants du jour. Alors vous ne devriez pas, justement, marcher, vivre comme ces personnes. Parce que vous êtes des enfants de la lumière. Alors voilà ce qui amène le troisième point. Alors, ne datons pas l'avenir, ne doutons pas, mais ne dormons pas, parce que ça, c'est la problématique. On dit souvent, un bon Québécois, là, il dort sa switch. Hein? Mais ça, c'est possible aussi dans la vie chrétienne. Et c'est pourquoi Paul, il va prendre le temps maintenant de dire, ne dormons point, mais comme les autres. Comme qui les autres? Ce sont des non-croyants, des gens qui vivent dans les ténèbres, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Paul, il va les appeler les enfants de la nuit. Ils sont étrangers justement à cette vérité qui nous a éclairés. Ils n'ont pas la vie éternelle, cette vie spirituelle qui leur permet justement de faire les œuvres de justice que Dieu a préparées. Alors, Paul, il ne veut pas que ceux qui ont été transportés dans le royaume de lumière agissent comme ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Et vous savez, il y a des raisons pour lesquelles on peut justement être en train de dormir. Dans un premier temps, là, ça peut être l'attente du maître. Et dans Matthieu chapitre 25, on voit cela, ça c'est la parabole des 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Et qu'est-ce que nous lisons? Comme l'époux tardait. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils sont tous endormis. Et vous savez, quand vous avez, peut-être si vous avez des jeunes enfants, je me rappelle souvent, là, quand on prenait un long voyage avec les jeunes enfants, c'est quoi la question qu'ils posent? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Et c'est quoi la réponse classique que les parents donnent? Dors! Ça va paraître moins long. Ça peut fonctionner dans le monde physique normal, mais pas pour le chrétien. Paul ne veut pas justement que les chrétiens dorment. Et c'est vrai, ça fait 2000 ans depuis que Jésus est monté au ciel. Et même Pierre va nous dire qu'il y a des gens qui se moquent justement de cela quand on parle du coteau. Ils disent que, où est-il? Ça fait longtemps qu'on vous en parle et puis il n'est pas revenu. Et ça pourrait être une façon justement pour nous de s'assoupir et de s'endormir. Mais Paul, il ne veut pas cela. Et la deuxième chose aussi, il y a les attraits du monde. Dans 2 Timothée chapitre 4, il va parler de Démas, un compagnon de Paul qui avait travaillé avec Paul, qui l'avait accompagné. Et ici, c'est assez triste. Il a dit que Démas, quoi, il m'a abandonné. Pourquoi? Par amour du siècle présent. Il y avait des attraits dans le monde, des choses qui l'ont attiré. Et Démas avait abandonné justement ce chemin. Il y a un parallèle assez frappant dans le livre, c'est classique, Voyage du pèlerin. Il y a Christian et Fidèle, c'est les deux qui s'en vont vers la cité céleste. C'est vraiment très bien, c'est Paul Bunyan qui a écrit cela, très bien. Et ça nous montre justement qu'est-ce qui arrive dans la vie chrétienne. Ils vont quitter la cité de la destruction. Ils sont sauvés, puis là, ils s'en vont vers la cité céleste. Bref, ils sont en route pour le ciel. Et chemin faisant, ils vont passer par une ville de la vanité, et là, il y a une foire. Et là, dans cette foire, il y a toutes sortes d'attractions. Et là, il y a un homme qui va s'approcher de nos deux voyageurs, il va dire, « Que voulez-vous acheter, vous autres ?» Et là, il a toutes sortes de choses. Et les deux répondent, nous achetons la vérité. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut justement être un danger. Il y a, oui, l'attente, mais il y a aussi des attraits. Faites attention qu'une distraction ne devienne pas une dépendance qui fait dormir. Et vous savez vous-même, il n'y a personne qui est à l'abri de cela. Nous sommes tous entourés, bombardés jour et nuit par des distractions. Je ne suis pas contre les distractions. Je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas prendre des vacances, on ne devrait pas s'amuser, on ne devrait pas jouer à un sport, mais je peux vous dire que si ces choses deviennent justement le point focal de notre vie, si on est pris avec cela, si on passe des heures et des heures et des heures avec ces choses, mais là, justement, il y a ce danger de s'endormir. L'exemple classique, c'est les médias sociaux. La technologie, c'est une bonne chose, j'ai utilisé la technologie pour préparer mon PowerPoint, mais aussi, il faut être équilibré parce que ça peut devenir justement un attrait qui fait en sorte qu'on oublie qui nous sommes, on oublie où est-ce que nous en allons, et comme les gens de ce monde, on s'endort. Mais Paul y amène maintenant les correctifs. Ne dormons pas comme les autres, mais croyons, soyons alertes, veillons. Et vous savez l'importance de la prière. Comment est-ce qu'on va rester veillé? Si on ne veut pas dormir, il faut rester veillé. Une bonne façon, c'est la prière. Matthieu chapitre 26, le Seigneur s'en va à la croix. Il prend les disciples avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Qu'est-ce qu'il leur dit? Restez ici et veillez avec moi. Élie s'en va prier. Et quand il revient, qu'est-ce qui arrive? Il s'est endormi. Mais c'est quoi sa reproche? Vous n'avez pas pu veiller avec moi une heure. Veiller et quoi prier? L'esprit est quoi bien disposé? Mais la chair est faible. Et vous savez, j'ai mis Matthieu chapitre 6 là. Ça, c'est la prière qu'on appelle la prière dominicale, notre Père. Et le Seigneur est en train de dire aux gens, il ne faut pas, quand vous priez, là, d'utiliser des vaines répétitions. Et là, il le donne, cette prière, qui, pour moi, c'est une prière d'importance capitale. Si on le dit, pas de façon machinale, mais en réfléchissant sur les paroles. Notre Père qui est aux cieux. Tout de suite, ça change. Mes yeux sont portés quoi en haut? Que ton nom soit quoi sanctifié? Que ton quoi, ton règne vienne? Comment est-ce que je peux être en train de dormir dans ce monde ici quand je suis en train de prier que le règne de Christ vienne? Et quand je sais aussi que quand son règne viendra, il va y avoir des gens qui ne sont pas sauvés, qui vont justement rencontrer le Dieu trois fois saint. Ça, c'est une bonne prière qui va nous justement nous garder éveillés. Deuxième chose, pour rester éveillés, soyons actifs. Soyons alertes, veillants, mais soyons actifs. Regardez le texte encore. Il va dire ceci, ne dormons donc point comme les autres, mais soyons sobres. Le mot sobre veut dire quelqu'un qui monte de la mesure, de la réserve, une attitude de quelqu'un qui agit avec prudence. Malgré tout ce qui se fait autour et qui est en train de se faire, cette personne qui est sobre est capable de faire la bonne mesure, fixer les priorités, mettre les temps et les énergies à les bonnes places. Et une façon de faire cela, c'est d'être actif dans le service du Seigneur. Paul va dire ceci, vous allez être sobre ayant revêtu la cuirasse de la foi. Vous savez, la foi est toujours associée avec quoi? Les œuvres. Jacques va nous dire que la foi sans les œuvres est morte. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un acte de foi que je mets ma confiance en Dieu pour mon salut. Mais après que je suis sauvé, une foi active va être vue, démontrée plutôt par les œuvres qui démontrent justement que j'ai la foi. Et une bonne façon de rester éveillé, c'est de prendre le verset Éphésiens 2:10. L'apprendre par cœur et le mettre en pratique. Nous sommes sauvés par grâce. Mais Éphésiens 2:10 nous dit que nous sommes quoi? Créés à l'image de Dieu, nous sommes sans œuvres, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions? J'aimerais vous dire ce matin que votre vie n'est pas sans sens aux yeux de Dieu. Quand Dieu vous a sauvé, c'était pour un plan précis. Dans sa grâce et dans sa miséricorde, il a préparé pour vous des œuvres que seulement vous pouvez les accomplir. C'est vous et Dieu. Il y a un plan pour votre vie, il y a un chemin pour votre vie. Et avec ces œuvres-là, il vous a équipé, si vous êtes sauvé avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, pour que vous puissiez devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. Vous voulez rester actif et ne pas dormir, mais chercher activement ce plan de Dieu pour votre vie. Revêtu la cuirasse de la foi. Deuxième chose aussi, soyons actifs, ayant revêtu la cuirasse de l'amour. Les deux vont ensemble. Si je fais de Dieu, justement, le premier amour de ma vie, c'est ce premier commandement, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de toute quoi, ton âme, ton cœur, ta force, ta pensée. Alors, je recherche le plan de Dieu pour ma vie, mais je cherche aussi le Dieu qui a préparé ses œuvres pour ma vie. Psaume 42 va dire ceci, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire auprès de toi, ô mon Dieu. Mon âme soupire après toi. Vous savez, Dieu nous a créés avec cette capacité d'aimer. Et si Dieu n'est pas notre premier amour, si nous ne trouvons pas notre satisfaction, notre plaisir en Dieu, on va le trouver ailleurs. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. On a été créés comme cela. Soit que Dieu est en train ce matin de nous remplir, de nous combler, ou bien je vais chercher justement mon plaisir, ma satisfaction dans d'autres choses. Un amour actif recherche le Dieu de justice. Et David avait justement cette soif. John Piper va dire ceci, et pas le temps d'entrer dans les détails. C'est un homme qui, justement, quand il prêche, constamment revient à ce thème-là. Fait de Dieu, justement, votre amour principal de votre vie. Tout le reste va rentrer dans l'ordre. Trouvez votre plaisir, votre satisfaction dans sa personne. Et quand cela arrive, don't waste your life. Ça veut dire que votre vie ne sera pas justement un gaspillage parce que vous avez couru auprès d'autres choses. Soyons actifs, mais aussi soyons en adoration si nous ne voulons pas dormir. Il va dire aussi, prendre la cuirasse, c'était une partie de l'armure romaine, justement pour cacher le thorax, le camp, où est-ce qu'il y avait les organes, justement, mais aussi ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ça aussi, c'est une manière de ne pas dormir. De se concentrer sur Jésus-Christ, sa personne, son œuvre. Le texte nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous. Pourquoi? Afin que nous vivions ensemble avec lui. Vous savez, il y avait dans... quand nous commençons à saisir un peu la profondeur, la miséricorde et de l'amour de Dieu pour nous, en nous délivrant d'une éternité de souffrance dans le lac du feu, nous serons en adoration devant lui. On ne sera pas en train de dormir. Luc chapitre 17, il y a ces 10 personnes lépreux qui ont été guéries. Et l'un d'eux se voyant guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse chemin. Il se jette aux pieds du Seigneur. Se prosterne devant le Seigneur et glorifie Dieu. Mais le Seigneur a une question. Il dit, où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Il y a juste un seul Samaritain qui est revenu pour donner gloire au Seigneur. Frères et sœurs, ça ne devrait pas être notre condition. Nous devrions être de ceux qui font justement un devoir par amour de venir dimanche après dimanche. Et même aussi que l'adoration soit un style de vie, parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre pour l'éternité avec lui. Dans le bonheur, dans la gloire, échapper justement à cette colère du jour du jugement et de connaître seulement la grâce et la miséricorde et l'amour de Dieu. Ça, il n'y a pas de prix à cela. Je vous donne souvent des chants en anglais, mais c'est parce que quand j'étais sauvé, j'étais dans une église anglaise. On avait l'habitude, justement, autour de la table du Seigneur, de chanter des cantiques qui nous rappelaient la mort et la souffrance. Et ça, c'est un des cantiques qui souvent me touchait. Gethsemane, can I forget? Est-ce que je peux oublier Gethsemane? Or there thy conflict see. Vois le Christ. Qui est là, le pain, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non, foi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y avait justement cette tension-là. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Que ta volonté soit faite. Thine agony and blood like sweat. Ça, ce n'était pas une petite chose. La Bible nous dit que sa soeur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et comment est-ce que je peux méditer sur cela et oublier et ne pas me rappeler justement de ce sauveur qui est mort pour moi afin que je puisse passer l'éternité dans sa présence et échapper au jour du jugement. Finalement, face au jour du Seigneur, ne datant pas l'avenir, ne doutons pas, ne dormons pas, mais finalement, ne nous désistons pas. Pourquoi? Paul va dire ceci, exhortez-vous, édifiez-vous réciproquement, comme en réalité vous le faites. Et vous savez qu'il n'y a personne qui est à l'abri de s'endormir. Personne. Un jour, ça peut m'arriver d'être justement en train de dormir. Et là, Paul est en train de dire ici à ses croyants, vous avez une responsabilité. Dans le corps de Christ, vous avez une responsabilité les uns envers les autres. Et quand vous voyez quelqu'un qui est en train de dormir, vous avez la responsabilité par amour de lui dire, « Hey, réveille-toi, tu dors. Pire encore, tu ronfles. » Alors Paul dit ici, justement, « Veillez les uns sur les autres. » Et ne soyez pas comme Caïn quand le Seigneur a dit, « Où est ton frère Abel? » Il dit, « Je ne sais pas. Suis-je gardien de mon frère? » Oui, nous avons justement cette responsabilité par amour de nous encourager, de nous exciter. Hébreux 10, 23 nous dit ceci, « Retenons fermement quoi? La profession de notre espérance parce que celui qui vous appelait est quoi? Fidèle, veillant les uns sur les autres. » Afin de quoi vous exciter, à quoi à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais quoi, exhortant-nous réciproquement, et cela quoi, d'autant plus que vous voyez quoi venir le jour. Paul y dit justement, le jour s'en vient, vous allez être avec le Seigneur, mais parmi vous autres ici, faites une œuvre. Pas pour justement être quelqu'un qui, « Ah, tiens, tu dors! » Non, c'est pas ça. Mais c'est par amour justement de dire, « Écoute, mon frère, ma soeur, ensemble, on va justement rester éveillé. » Comment est-ce qu'on peut faire cela de façon pratique? Il y a des groupes qu'on a mis en place, des groupes connexion. C'est une bonne manière de rester ensemble et de prier les uns pour les autres, s'encourager mutuellement. Il y a des réunions de l'Assemblée comme ici le dimanche matin. Il peut y avoir justement toutes sortes de façons trouver, peut-être des fois il y a des gens qui trouvent un partenaire de prière. S'engagent avec quelqu'un justement d'avoir un temps de prière ensemble ou est-ce qu'ils vont s'encourager, prier les uns pour les autres, etc., etc. Ne dormons pas parce que le Seigneur revient. Et j'espère que vous avez maintenant être capable de répondre à la deuxième question que je vous ai posée. Premièrement, est-ce que le jour du Seigneur est synonyme de l'enlèvement? Vous avez votre réponse. Et aussi, le jour du Seigneur par rapport à l'enlèvement, est-ce que vous et moi, nous serons là pour faire face au jugement du Seigneur qui nous a sauvés? Et quand le texte nous dit « Je termine avec cela, ici, le verset 9, « Car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » La semaine prochaine, Dieu voulant, l'Église modèle et ses manières, la manière de vivre en famille. On va prier. Seigneur, on est reconnaissant pour ton grand amour envers nous. On te demande maintenant de prendre cette parole et l'appliquer à nos cœurs. Et merci pour le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Et ma prière, Seigneur, s'il y a quelques-uns qui, ici ce matin, qui ne te connaissent pas, dans ta grâce, dans ta miséricorde, Seigneur, aie pitié d'eux. Ouvre leur intelligence. Montre-leur que tu es un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui est juste. Et qu'un jour, s'ils ne te connaissent pas, ils passeront l'éternité loin de ta face. Ô Seigneur, sauve des âmes pour ta gloire et fais du bien à ton peuple. Demandant ces choses au nom de Jésus.